الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا اليوم هو 11 من ربيع الثاني عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في المجلس 44 في قراءة الكتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 31 janvier 2015 et ceci la 44e rencontre dans la lecture du livre de l'imam ibn Kathir رحمه الله تعالى, les chapitres dans la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Au cours dernier, nous avons entamé la lecture du chapitre concernant le fait que les livres qui ont été révélés avant le Coran, parmi lesquels l'Évangile et la Torah, l'Injil wa Torah, ont donné les informations de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons d'ailleurs lu quelques passages du livre de la Torah qu'Ibn Kathir rahimahullah a cité, la Torah qui existait à son époque et que les juifs de son époque approuvaient et reconnaissaient. Il s'y trouvait des versets où on faisait référence à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous en avons profité pour expliquer que les savants de la sunna prennent leurs informations du Coran et de la sunna et n'ont pas besoin de lire autre que le Coran comme livre révélé, que ce livre soit la Torah, l'Évangile ou autre. C'est pour cela que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a croisé Omar radiyallahu anhu, dans la main duquel il y avait des feuillets, des écritures anciennes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si Moussa était vivant, il n'aurait pu que me suivre. Il voulait ici lui expliquer que tu n'as plus besoin de lire ces livres. Même Moussa, à qui ce livre a été révélé, s'il était vivant du temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pris le Coran comme livre. Mais Ibn Kathir rahimahullah ici cite des passages de la Torah qui vont être confirmés par les textes du Coran et de la Sunna. Il ne prend pas ces textes pour les prendre comme preuve, indépendamment du Coran et de la Sunna. Que ceci soit bien clair. Le musulman se contente du Coran. Ce qui est voulu ici, c'est de montrer simplement que même les écritures anciennes montraient que le prophète allait venir sallallahu alayhi wa sallam. Ces écritures anciennes ont été approuvées et reconnues par les juifs de cette époque, celle d'Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Nous avons lu quelques passages commentés par Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Puis Ibn Kathir continue toujours dans le même registre et dit: wa fi sifr al-rabi' من التوراة التي بأيديهم اليوم أي بأيدي اليهود اليوم أي يوم حياة ابن كثير رحمه الله ما معناه نبي أقيم لهم من أقاربهم من أخيهم مثلك يا موسى أجعل نطقي بفيه أي بفمه ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله عز وجل لم يبعث من نسل إسماعيل نبيا سوى محمد صلى الله عليه وسلم بل لم يكن في بني إسرائيل نبي يماثل موسى إلا عيسى عليه السلام وهم لا يقرون بنبوته ثم ليس هو من أخيهم بل هو منتسب إليهم بأمه صلوات الله عليه وسلامه فتعين ذلك في محمد sallallahu alayhi wa sallam. En outre, dans le quatrième livre de la Torah que détiennent les Juifs aujourd'hui, c'est Ibn Kathir, rahimahullah, qui parle de la Torah qui existait à son époque. Ensuite, Allah sait si celle-ci a été altérée, falsifiée ou non. Ce n'est pas le sujet de notre cours. Le quatrième livre de la Torah que détiennent les Juifs aujourd'hui se trouve des paroles dont voici le sens. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, ô Moussa. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Or, ils savaient parfaitement comme chacun qu'Allah Tout-Puissant n'a suscité dans la descendance d'Ismaïl d'autres prophètes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mieux, il n'y eut pas parmi les fils d'Israël, Israël, c'est le prophète Yaqub alayhi salam, et la descendance de laquelle va être issu le peuple juif est la descendance d'Israël, c'est-à-dire la descendance du prophète Yaqub alayhi salam. Mais il n'y eut pas parmi les fils d'Israël de prophète du rang de Moussa, à l'exception de Isa. Or, les Juifs ne reconnaissaient pas en lui un prophète. D'ailleurs, il ne fait pas partie de leurs frères, puisqu'il est des leurs par sa mère, alayhi salam. Par conséquent, seul Mohammed correspond à cette description, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir a cité ce passage de la Torah qu'il a rapporté selon le sens, dans lequel on y voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a informé Moussa alayhi salam qu'il va être issu de la descendance d'Ismaïl alayhi salam un prophète, et il mettra ses paroles dans sa bouche. Quelles sont ces paroles dont il parle ici? Al-Qur'an. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a dit qu'il va envoyer un messager qui va citer les paroles d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans surat Al-Jumu'ah, « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم » C'est lui qui a envoyé chez les illettrés un messager issu d'eux, « يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ » Il leur récite ces versets, c'est-à-dire il récite à son peuple les versets d'Allah. C'est le sens de ce qu'on retrouve ici. « وَيُزَكِّيهِمْ » Et il les purifie. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Il leur enseigne le livre et la sagesse. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Donc, on voit ce qui est confirmé par le Coran. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, continue et dit وَمِنْ ذَلِكَ مَا خُتِمَتْ بِهِ التَّوْرَاتُ فِي آخِرِ السِّفْرِ الْخَامِسِ مَا مَعْنَاهُ جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلى من جبال فران ومعنى هذا أن الله جاء شرعه ونوره من طور سيناء الذي كلم موسى عليه وأشرق من ساعير وهو الجبل الذي ولد به عيسى عليه السلام وبعث فيه واستعلى من جبال فران وهي مكة بدليل أن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فران وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم بهذه الأماكن الثلاثة فترقى من الأدنى إلى الأعلى في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ففي التوراة ذكرهن بحسب الوقوع الأول فالأول وبحسب ما ظهر فيهن من النور وفي القرآن لما أقسم بهن ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم لأن عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, va continuer et va dire: de même, ces paroles qui clôturent la Torah, à la fin du cinquième livre, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé du Seir, du Sa'ir, et il a resplendi de la montagne de Pharan. Ces paroles signifient que la loi d'Allah et sa lumière sont venues du mont Sinaï, sur lequel il a parlé à Moussa alayhi salam, qu'il s'est levé de Sa'ir, qui est le nom de la montagne sur laquelle Isa est né, puis a été suscité comme prophète, et qu'il a resplendi de la montagne de Pharan, qui n'est autre que la Mecque. Pour preuve, Allah Azza wa Jal a ordonné à Ibrahim d'emmener Ismaïl au mont Pharan. Le mont Pharan, ce sont les montagnes qui se trouvent à Mecca. À l'appui de cette interprétation, certains savants de l'islam rappellent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces trois lieux, en commençant par le moins noble d'entre eux, puis par celui qui est plus noble que lui, et enfin par le plus noble des trois. Il dit en effet, le sens du verset, par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï et par cette cité sûre. Dans la Torah, ces lieux sont mentionnés selon l'ordre chronologique des révélations qui y ont eu lieu. En revanche, dans le Coran, Allah jure par ces lieux en débutant par l'endroit associé à Isa, puis celui associé à Moussa, et enfin par celui associé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les Arabes ont l'habitude de jurer par les choses les moins importantes, puis par ce qui est plus important. Ici, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous montre un des derniers passages de la Torah, en tout cas celle qu'il avait à son époque, rahimahullah ta'ala, dans laquelle on fait mention de trois endroits. Et ces trois endroits dont on a parlé dans ce passage, ce sont les mêmes qu'on retrouvera dans le Coran. On les retrouvera dans la sourate At-Tin, le figuier. At-Tin wa Zaytoun, Allah jure par le figuier et l'olivier. Wa Tur Sinin, le mont Sinaï. Wa hadha al-balad al-amin, et par ce village où il y a la sécurité, par cette cité sûre. Allah jure par ces trois choses-là. Ces trois choses, si on les médite, on verra que ce sont trois endroits. Puis si on pousse la méditation, on verra que dans ces trois endroits, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé un prophète ou messager. Le premier endroit, comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, est celui dans lequel fut envoyé Isa alayhi salam. Pourquoi on a dit par le figuier et l'olivier? Car dans l'endroit où Isa a été envoyé par Allah et suscité prophète, il y avait des figuiers et des oliviers qui poussaient. Deuxièmement, wa Tur Sinin, par le mont Sinaï. La plupart d'entre vous savez que le mont Sinaï, c'est le mont dans lequel ou vers lequel a été Moussa alayhi salam, et Allah tabaraka wa ta'ala s'est adressé à lui sans intermédiaire ni traducteur. Puis wa hadha al-balad al-amin, et par cette cité sûre qui est la Mecque. Qu'est-ce qui a été envoyé à la Mecque? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir nous explique que dans le dernier passage de ce livre des Juifs, on fait référence à ces trois endroits. Et on le fait également dans le Coran. Si ce n'est que dans la Torah, on cite l'ordre qui a été fait ou qui a été choisi par Allah Azza wa Jal, l'envoi des messagers. Alors que dans le Coran, on va citer on va citer ces trois choses-là dans un ordre d'importance croissant. On va commencer par l'endroit où a été envoyé Isa alayhi salam, puis Moussa alayhi salam, puis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être que la plupart d'entre vous savez que Isa a été envoyé après Moussa alayhi salam. Donc on retrouve encore une fois quelque chose dans la Torah qui est confirmé par les Juifs de leur époque, mais qui, le plus important pour nous, est confirmé par le Coran, le livre d'Allah, تبارك وتعالى. ابن كثير continue: وكذا زبور داود عليه السلام والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب فيها البشارات به صلى الله عليه وسلم كما يخبر بذلك من أسلم منهم قديما وحديثا. Il continue, rahimahullah, de même les psaumes de Daoud. Daoud, c'est celui qu'on appelle David en français. De même les psaumes de Daoud et les prophéties que détiennent les gens du livre contiennent des annonces de l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont indiqué ceux parmi eux qui ont embrassé l'islam anciennement et récemment. Effectivement, jusqu'à nos jours, certains parmi ceux qui ont adhéré à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et se sont convertis à l'islam, parmi ceux qui lisaient leurs écritures, affirment qu'il s'y trouve des passages où on fait mention d'un dernier prophète qui viendra, et c'est donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وفي الإنجيل ذكر البارقليت موصوفا بصفات محمد صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. Ainsi, dans l'Évangile, le paraclet correspond parfaitement à la description de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux paroles, d'Isaïe ou d'Isaïe et de Jérémie, elles sont très claires pour ceux qui les lisent. Louange donc à Allah. Wa amma kalamu ash'aya wa amma kalamu ash'aya wa armaya فظاهر جدا لكل من أقره ولله الحمد والمنة والحجة البالغة. C'est ainsi que s'achève ce chapitre. قال رحمه الله فصل: تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر. Il va passer un nouveau chapitre où il va citer le nom de ses enfants صلى الله عليه وسلم. Ses oncles et tantes paternelles ont déjà été mentionnés lorsque furent cités sa noble généalogie et son haut lignage. Vous vous souvenez d'ailleurs, dans le deuxième cours peut-être, on a fait mention de ses parents, grands-parents, aussi de ses oncles maternels, paternels, sallallahu alayhi wa sallam. On a peut-être cité que les savants on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 10 oncles paternels, d'autres 11, d'autres 12 et d'autres 13. En tout cas, ceux qui parmi eux étaient vivants au moment de l'avènement de l'islam étaient au nombre de 4. Qui va me les rappeler? Naam. Abu Jahl. Qui le corrige? Abu Lahab, non pas Abu Jahl. Deuxièmement, Al-Abbas. Hein? Abu Talib. Naam. Et enfin, Hamza, barakallahu fik. Fahum arba'a adraku l'islam. Kanu ahya hina ba'athallahu al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam. Wal baqoun كانوا قد توفوا قبل البعثة. Ce sont donc 4 oncles paternels qui étaient vivants. Mais أسلم منهم اثنان وبقي على الكفر منهم اثنان. 2 sont restés mécréants et 2 autres ont embrassé l'islam. Qui sont ceux qui ont embrassé l'islam? Hamza والعباس رضي الله عنهما. Et les 2 autres, Abu Lahab et Abu Talib, n'ont pas embrassé l'islam. وَلَكِنَّ بَيْنَهُمَ فَرْقًا. Mais il y a une différence entre les deux. Quelle est cette différence? هذا هو بارك الله فيك. C'est la différence, c'est que Abu Talib, a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a soutenu et lui a apporté son secours. Alors que Abu Lahab est venu quand le prophète les a réunis sur le mont de Safa et leur a dit qu'il est prophète. أخبرهم أنه نبي فقال تبا لك لهذا جمعتنا. Il lui a dit que tu périsses, est-ce pour cela que tu nous as réunis? Et Allah a descendu le verset تبت يدا أبي لهب وتب, que les deux mains d'Abu Lahab périssent et que lui-même périsse jusqu'à la fin de la sourate. Ce sont ses oncles paternels qui ont assisté à l'islam. قال رحمه الله فأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلا إبراهيم. Il dit, quant à ses enfants, tous filles et garçons lui ont été donnés par Khadija bint Khuwaylid رضي الله عنها, à l'exception d'Ibrahim. من أين جاء إبراهيم؟ من 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 أم إبراهيم؟ Qui est la mère de Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Muhammad. Maria al-Qibtiya. Maria. On peut dire Maria en français, mais sinon c'est Maria. Illa Ibrahim min Maria al-Qibtiya wa hum ay awladuhu al-Qasim wa bihi kana yukanna kunyatuhu Abu al-Qasim. لأنه أكبر أولاده والكنية تكون مع أكبر الأولاد لأنه أكبر أولاده ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم بعد النبوة عبد الله ويقال له الطيب الطاهر لأنه ولد في الإسلام وقيل الطاهر غير الطيب وصحح ذلك بعض العلماء ثم إبراهيم من ماريا ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة الثامنة وتوفي عن سنة وعشرة أشهر وعشرة أشهر فلهذا قال صلى الله عليه وسلم إن له موضعا مرضعا من الجنة قال وكلهم مات قبله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها توفيت بعده بيسير أي بقليل قيل ستة أشهر على المشهور وقيل ثمانية أشهر وقيل سبعون يوما وقيل خمسة وسبعون يوما وقيل ثلاثة أشهر وقيل مئة يوم وقيل غير ذلك. Maintenant, il va citer les enfants du prophète صلى الله عليه وسلم par leur nom. Il nous dit, à l'exception d'Ibrahim, né de Maria, l'Égyptienne. Ses enfants sont donc Al-Qasim, qui étant son premier-né, a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam son surnom Abu al-Qasim, son surnom Sakunia. Donc il fait partie de la sunna d'appeler quelqu'un en citant le nom de son fils et en disant qu'il est son père. Si ton enfant s'appelle Ahmed, on t'appellera Abu Ahmed, c'est-à-dire le père de Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu par ce surnom Abu al-Qasim. N'est-ce pas que lorsqu'il a essayé de convertir l'enfant juif à l'islam, cet enfant a regardé son père et lui a dit « Ati' Abu al-Qasim » « Obéis à Abu al-Qasim » au père de Al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Ce surnom est donné et il est en relation avec le plus âgé des enfants, l'enfant aîné. Nakir ensuite Zainab, puis Ruqayya, puis Umm Kulthum et Fatima. Ce qui fait combien de filles? 4 filles. Combien de garçons? Comment? 2. Pour l'instant, vous avez entendu 2 garçons, 4 filles. Puis lorsqu'il est devenu prophète, est né Abdullah. C'est-à-dire que les enfants dont vous avez entendu les noms sont ceux qui sont nés avant la prophétie, avant l'avènement de l'islam. Puis une fois devenu prophète, il a eu d'autres enfants, parmi lesquels le premier Abdullah, surnommé At-Tayyib et At-Tahir. At-Tayyib, cela veut dire le bon. At-Tahir, le pur, car il est né après l'avènement de l'islam. C'est pour cela qu'il a été surnommé le pur, le bon, car il est né dans la pureté de l'islam. Selon un autre avis, confirmé par certains savants de l'islam, son surnom était seulement At-Tahir. C'est-à-dire qu'il existe des historiens qui font la différence entre ces deux noms. Ils disent que ce sont deux enfants différents. Un s'appelait At-Tahir et l'autre s'appelait At-Tayyib. Ils disent que Abdullah, c'est lui qu'on appelait At-Tahir. At-Tayyib, c'est un autre et c'est son prénom. Or, l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a cité et a jugé qu'en réalité, ce sont deux surnoms qui sont donnés à son enfant Abdullah. Ce ne sont pas deux noms de deux enfants séparés ou différents. Après Abdullah, naquit Ibrahim, que lui donna donc Maria à Médine, en l'an 8 de l'Hégire. L'enfant mourra à l'âge d'un an et 10 mois. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu tous ses garçons en bas âge, si bien que le peuple de Quraysh s'est moqué de lui, disant qu'il n'avait plus d'enfants et qu'il n'y avait donc rien à craindre puisqu'il n'a pas laissé de descendance masculine redoutable. Faqalu hadha Muhammad mat abna'uhu fa huwa mabtur ay maqtu' an an-nasl. Ils ont dit, regardez, Mohammed a perdu ses enfants. Il parlait des garçons. Il est privé et coupé de descendance. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal a révélé la surat al-Sharh, l'ouverture, où il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nashar, là, ce n'est pas cette surah, mais c'est plutôt laquelle. Al-Masad. Bidaya tu surah. Qui me rappelle le début de la surah? La. Elle a plutôt révélé surat Al-Kawthar, où Allah Azza wa Jalla dit Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-Kawthar. Certes, nous t'avons donné Al-Kawthar. Al-Kawthar, ismun li nahar khassin bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil Jannah. C'est le nom d'un fleuve réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Fasalli li rabbika wanhar. Ay ushkurillah bis salat wa nahar. Il dit, prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Montre-toi donc reconnaissant pour ce don qui t'a été fait, qui est ce fleuve qui t'est réservé au paradis, en accomplissant les prières et en sacrifiant des bêtes au nom de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Puis à la fin, inna shani'aka, ay alladhi yubghiduk wa yakrahuk, inna shani'aka huwa al-abtar, ay huwa al-aqta'. Lasta maqtu'an, bal hum al-aqta'un. Puis il termine le verset en disant, celui qui te déteste, celui qui te haït, est le véritable privé, celui qui a été rompu ou qui a été coupé. Pour répondre à la parole de Quraysh, ils ont dit, il est coupé de descendance, il est donc privé. Allah Azza wa Jal lui a dit, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, selon le sens bien sûr du verset. Il l'a consolé en lui disant, ne t'en fais pas, tu as à la place un cadeau qui t'est réservé au paradis, alors qu'eux n'ont rien si ce n'est le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui te haït et te déteste est celui qui est coupé, privé, rompu, celui qui est éloigné de tout bien, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'enfant mourra, c'est-à-dire Ibrahim, à l'âge d'un an et 10 mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de lui, il a une nourrice au paradis. Pourquoi? Parce qu'il est mort avant 2 ans. Et Allah, azza wa jalla, a dit que l'allaitement qui va, on va dire, sevrer l'enfant en bas âge, le bébé, dure 2 ans. En principe, l'allaitement dure 2 ans. On ne parle pas de la réalité de beaucoup de femmes qui ne patientent pas sur l'allaitement, mais on parle de ce qu'Allah azzawajal aime, c'est qu'il dure 2 ans. Et comme il est mort à 1 an et 10 mois, il n'a pas complété ses 2 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a une nourrice au paradis. Puis, tous ses enfants sont morts avant lui, à l'exception de sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha. Tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont connu la mort du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est Fatima, qui mourut peu de temps avant lui. 6 mois à peine, selon la version la plus répandue. 8 mois selon d'autres. 70 jours, 75 jours, 3 mois ou 100 jours selon d'autres encore. Cheikh Abd al-Razzaq a dit que ce qui est plus connu, c'est qu'elle a connu la mort 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'avis de beaucoup parmi les historiens. D'autres durées ont également été avancées. Celui qui dirigea la prière funèbre sur sa dépouille est Ali radiyallahu anhu, qui est son époux. D'autres soutiennent que c'est Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, ce qui est étonnant. Dans un hadith, il est rapporté qu'elle fit un ghusl. Le ghusl, c'est le bain que l'on fait pour la prière du vendredi ou après la pureté majeure, peu de temps avant sa mort, et qu'elle demanda à ce que sa dépouille ne soit pas lavée, ce qui est très surprenant. D'autant qu'il est rapporté qu'elle fut lavée par Ali radiyallahu ta'ala anhu, Al-Abbas, Asma bint Umays, l'épouse d'Abu Bakr, et Salma Rafi', celle qui l'avait mise au monde. Ceci est d'ailleurs la version authentique. Avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser à sa fille Fatima radiyallahu anhu et lui confier 2 secrets. Le premier va la faire pleurer, le deuxième va la faire rire. Puis quand elle a été interrogée sur ce qui l'a poussée à rire et pleurer, elle n'a pas répondu. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a accepté de répondre en disant que la première fois, il m'a dit qu'il allait mourir, j'ai pleuré. La deuxième fois, il m'a dit que j'allais être la première femme qui allait le rejoindre, ou que du moins j'allais le rejoindre au paradis, ça m'a fait rire. Et donc on a compris de cela que Fatima va mourir peu de temps après lui, sallallahu alayhi wa sallam, wallahu ta'ala a'lam. Puis il cite que certains ont dit que Fatima radiyallahu anha s'est préparée, si bien qu'elle a fait son bain avant même de mourir. Mais ce hadith n'est pas authentique comme l'ont cité les savants du hadith. Ce qui est du moins plus apparent, c'est la deuxième chose qui a été citée, qu'elle a bien été lavée après sa mort, radiyallahu ta'ala anha. Et ainsi s'achève le chapitre concernant ses enfants, ce qui nous fait un total de combien d'enfants? 7 enfants. Qui sont-ils? Qui sont-ils rapidement? Naam. Fatima, Umm Kulthum, Ruqayya, Zainab. 4 filles. Combien de garçons? 3. Qui sont-ils? Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Le prophète a eu 7 enfants, sallallahu alayhi wa sallam. 4 filles, 3 garçons. 6 de ses enfants ont été portés par Khadija, radiyallahu ta'ala anha. Le 7e, qui est Ibrahim, a été porté par Maria, al-Qibtiyya, une égyptienne. Et donc, ce qui fait un total de 7 enfants. Qui sont ceux qui sont nés, du moins qui est le premier qui est né après l'avènement de l'islam? c'est Abdullah. Et il est mort en bas âge, comme ce fut le cas pour les autres garçons. Maintenant, il va parler des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faslun. أول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فكانت وزير صدق له لما بعث وهي أول من آمن به على الصحيح وقيل أبو بكر وهو شاذ. La première femme qu'il épousa fut خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. Quel âge avait le prophète صلى الله عليه وسلم quand il l'a épousé? 25 ans. Quel âge avait Khadija? Elle avait 40 ans. Elle avait donc 15 ans de plus que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a choisi car, vous vous souvenez que dans le chapitre sur ses deux voyages au Shem, il y a un chapitre, c'est peut-être le 6 ou le 7e qu'on a étudié, où Ibn Kathir parle des deux voyages du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers le Shem, pour vendre les marchandises de Aïcha Khadija radiallahu anha. C'est à ce moment-là qu'elle a vu de lui l'honnêteté, l'intégrité, la quiétude, la vertu. Elle a choisi de le demander en mariage, sallallahu alayhi wa sallam. Elle fut pour lui un soutien sincère au moment où débuta sa mission prophétique. La vie le plus juste est qu'elle fut la première personne à croire en lui, bien que certains prétendent qu'il s'agit d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Au début des cours, on a également vu qui sont les premières personnes à adhérer à l'islam, et on les a classifiées chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants, chez les esclaves affranchis. Et c'est une unanimité chez les savants. Qui sont-ils? Le premier homme, c'est Abu Bakr. La première femme, Khadija. Le premier jeune garçon, Ali radiallahu anhu. Le premier esclave libéré, Zayd ibn Haritha radiallahu ta'ala anhu. Ceci fait l'objet d'unanimité chez les savants. Wa lam yatazawwaj fi hayatiha bi siwaha, ay bi ghayriha, li jalalatiha wa 'idami mahalliha. Compte tenu du respect qu'il éprouvait pour elle et de sa noblesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'épousera aucune autre femme du vivant de Khadija radiyallahu anha. Ceci nous montre l'importance de cette femme qui est Khadija radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs femmes, comme vous allez le voir dans ce chapitre. Il a épousé des femmes en même temps, c'est-à-dire qu'il avait à la même période plusieurs femmes, mais au temps de Khadija radiyallahu anha, il n'avait qu'elle. Il a attendu qu'elle décède pour épouser autre qu'elle, en raison du respect qu'il avait pour elle et la considération qu'il lui portait, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nous montre son importance. Wa ikhtalifa ayyuma afdal hiya أو عائشة رضي الله عنهما فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء. Laquelle de ces deux épouses fut la plus noble, Khadija ou Aïcha? C'est une question que je vous renvoie. ما هي الأفضل, خديجة أو عائشة؟ عائشة. خديجة. Les savants ont dit, ça dépend. J'aime bien cette réponse. Développe-la. Ils ont dit que Aïcha est la femme la plus savante et Khadija la femme la plus noble. C'est insuffisant. Khadija est la femme qui l'a plus soutenue. Aïcha? Alors, Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité que chacune de ces deux femmes a des particularités qui fait que, du point de vue de ces particularités qu'elle a, elle est meilleure. D'un côté c'est Khadija, de l'autre côté c'est Aïcha. Si on parle de l'ancienneté dans l'islam et du soutien apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment du besoin le plus intense, alors on dira que c'est Aïcha Khadija radiallahu anha. Elle n'a aucune rivale dans ce domaine. Par contre, si on parle de celle qui a transmis la science et qui a emmagasiné un nombre considérable et étonnant de connaissances, alors c'est Aïcha radiallahu ta'ala anha. Même si vous voyez dans beaucoup de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait énormément Khadija, si bien que lorsqu'il avait des cadeaux qu'il voulait redistribuer, il donnait des cadeaux aux amis parmi les femmes de Khadija radiyallahu ta'ala anha, et disait: allez offrir ce cadeau à telle femme, elle était l'amie de Khadija radiyallahu ta'ala anha. Puis une de ses épouses a fait la remarque au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'il a mieux maintenant. Pourquoi tout le temps citer Khadija? Car vous savez qu'il y avait de la jalousie entre les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette jalousie n'a pas dépassé les limites d'Allah azza wa jal. Puis le prophète répondait: Allah ne m'a pas remplacé par meilleur qu'elle. Elle m'a soutenu quand personne ne m'aidait. Elle m'a apporté son secours lorsque j'étais seul. Donc Khadija radiallahu anha a une énorme place dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Aïcha radiallahu anha a elle aussi des particularités que personne d'autre qu'elle n'a parmi ses épouses. Les savants de l'islam ont divergé sur cette question. Certains d'entre eux ont répondu qu'il s'agissait de Khadija radiallahu anha. Khadija est morte avant l'hijr. وَقَدْ مَاتَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ. Donc ici, Ibn Kathir a cité la parole de certains savants qui voient que c'est Khadija, mais sachez qu'Ibn Taymiyyah, qui est le professeur de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a cité ce détail que vous venez d'entendre. وَقَدْ مَاتَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ. Et Khadija, radiallahu anha, a connu la mort avant l'hijr. ثُمَّ تزوج سودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة ودخل بها هناك. ثم لما كبرت أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها، فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها. Puis le prophète, puis après la mort de Khadija, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam épousa à la Mecque Sauda bint Zam'a de la tribu de Quraysh et du clan des Banu Amir. Donc voici la deuxième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sauda. Sa nuit de noces eut lieu à la Mecque également. Lorsque Sauda avança en âge et craignit d'être répudiée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui proposa d'accorder la nuit qui lui était réservée à Aïcha, ou selon certains, elle lui proposa de disposer à sa guise de sa nuit qu'il attribua finalement à Aïcha. Sauda, radiallahu anha, est une femme très intelligente. Il arrive un moment dans sa vie où elle voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide ou songe à la répudier, à divorcer, se séparer d'elle. Elle se dit qu'elle veut rester épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et jouir de ce statut chez Allah. Allah a dit dans le Coran: wa azwajuhu ummahatuhum, ce qui veut dire: et ses épouses sont leurs mères, les mères des croyants. Elle veut jouir de ce statut, de cette place chez Allah azza wa jal. Le prophète veut la répudier, veut se séparer d'elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre d'accord avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant que elle va faire une concession et laisser la nuit qui lui est réservée à la base à Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et donc elle est restée épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'a cessé de jouir de ce statut. Waqila lahu, waqila lahu, فجعله لعائشة لعائشة وفيها نزل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا والبعل هو الزوج نشوزا أو إعراضا الآية وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. C'est d'ailleurs au sujet de Saouda que furent révélées les paroles d'Allah le Très-Haut, selon le sens. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, je vous laisse lire la suite du verset de Sourate An-Nisa 128. Ce verset a été révélé concernant Saouda, radiyallahu ta'ala, anha. Saouda s'éteindra à la fin du califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anha. وقيل تزوج عائشة قبل سودة ولكنه لم يبني بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة ولم يتزوج بكرا سواها ولم يأته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها. D'autres affirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Aïcha, la fille d'Abu Bakr, avant Saouda, mais qu'il ne consomma le mariage avec Aïcha qu'au mois de Shawwal de la deuxième année de l'Hégire. Il n'épousera aucune autre femme vierge en dehors de Aïcha qu'il aima comme nul autre. On voit ici une divergence soulevée par l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, mais Ibn Kathir lui-même, dans son livre d'histoire, Al-Bidaya wa Al-Nihaya, le début et la fin, a dit que Aïcha fut épousée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant Saouda radiyallahu ta'ala anha wallahu ta'ala a'lam. Et Allah est plus savant de ce qui est le plus juste. On voit également que la seule femme vierge qu'a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était Aïcha radiyallahu ta'ala anha. C'était d'ailleurs pour elle une source de joie, ce qui faisait la distinction entre elle et les autres, radiyallahu ta'ala anha. Et Aïcha radiyallahu anha, justement, montrait qu'elle a été favorisée par Allah azza wa jal en justement étant épousée par le prophète alors qu'elle était vierge, contrairement à tous et à tout, toutes les autres épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walam yuhibba ahadan minan nisa mithlaha waqad kanat laha ma'athiru wa khasa'isu dhukirat fil qur'ani was sunna wala yu'lamu fi hadhihi al ummati imra'atun balaghat min al ilmi mablaghaha wa tuwfiyat sanata 70 wa qila 58. Il n'épousera aucune autre femme vierge en dehors de Aïcha qu'il aima comme nul autre. Par ailleurs, il recevait la révélation chez elle, alors qu'il ne la recevait chez personne d'autre de ses femmes. C'est donc un autre point qui nous montre la particularité de Aïcha et son importance. Aïcha avait en effet des vertus et des particularités que mentionnent le Coran et la Sunna. Citez-moi une vertu, une particularité qu'Allah a cité concernant Aïcha dans le Coran. Il l'a innocentée. Vous ne vous souvenez pas? Allah Azza wa Jal a innocenté Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle fut accusée d'adultère injustement. Allah a révélé des versets pour montrer que Aïcha radiallahu anha est pure et n'a jamais commis le péché, la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que dans la sunna, beaucoup de hadiths. D'ailleurs, on ne connaît aucune musulmane qui ait atteint le niveau de ses connaissances religieuses. En effet, et sachez que la majeure partie de la science islamique que nous avons est rapportée de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. C'était une savante avec le vrai sens du terme, au sens propre du terme. Elle était savante et elle détenait, elle connaissait de la religion d'Allah Azza wa Jal, ce que aucune autre femme ne va connaître après elle, et ce que beaucoup d'hommes ne connaîtront pas après elle. Radiyallahu ta'ala anha. Elle s'est éteinte en l'an 58 de l'Hégire. Elle avait à peu près l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est mort, 63. Puis, la troisième année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Hafsa. Hafsa qui est la fille de Umar. ثم تزوج حفصة بنت عمر بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الثالثة من الهجرة وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها وتوفيت سنة 41 وقيل 50 وقيل 45. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم va épouser après Aïcha Hafsa, qui est la fille de Omar. Puis la troisième année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Hafsa, la fille de Omar, ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qu'il répudia avant de la reprendre. Il a divorcé Hafsa, mais il l'a reprise. Hafsa mourut en l'an 40, en l'an 41 de l'Hégire, ou en l'an 50 selon d'autres, ou encore en l'an 45. Wallahu a'lam. Puis Ibn Kathir rahimahullah va citer une autre épouse qui est Umm Salama. Mais le Cheikh Abdel Razak Ibn Abdel Muhsin hafidhahum Allah a cité que entre Hafsa et Umm Salama, il y avait une autre épouse qui est Zainab. Elle n'est pas citée ici, qui est Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya, plus connue sous le nom de Ummu al-Masakin, la mère des pauvres, car c'était une femme généreuse. Elle donnait énormément et elle étendait ses largesses aux pauvres et aux besogneux. Donc elle a été connue par ce surnom Ummu al-Masakin, la mère des pauvres. Elle fut épousée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Hafsa et avant Ummu Salama, et elle a connu la mort en l'an 4, au mois de Rabi' al-Thani. Wallahu ta'ala a'lam. ثم تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة ويقال سهل بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم القرشية وذلك بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم مرجعه من بدر. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam épousa Umm Salama, dont le nom est Hind, la fille d'Abu Umayya, dont le nom est Hudhayfa ou Suhail ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Umm Salama, qui appartenait à la tribu de Quraysh. Après la mort de son mari, Abu Salama, Abdullah ibn Abdel Asad ibn Hilal ibn Abdillah ibn Makhzoum, à son retour de la bataille de Badr. À la fin de son délai de viduité, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la demanda en mariage, ce qui indique que ceci eut lieu au début de la troisième année de l'Hégire. On s'arrête ici, inshallah ta'ala, et on poursuivra au prochain cours la suite des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.